Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Allez, on est ensemble pendant une petite heure et on va feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est parti!
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Eh oui, la vulgarisation scientifique, on va parler de science dans cette émission. On se retrouve pour une petite heure sur l'antenne de Graphite, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. La semaine dernière, pour la reprise de l'émission pour cette année 2026, je n'avais pas eu le temps d'évoquer les articles que j'avais prévus de vous présenter la semaine dernière. Bah, on verra ça cette semaine. On parlera notamment de Sophie Adnau qui va être cette Française qui va partir dans la Station Spatiale Internationale. Et puis on va voir un petit peu aussi ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il y a pas mal de choses qui se trament en ce moment. L'année 2026 va être intéressante au niveau spatial. Et on parlera aussi d'une découverte scientifique véritablement prometteuse au niveau médecine. Voilà, c'est un petit peu le programme de cette émission. Alors aujourd'hui, 17 janvier, eh bien, au niveau de l'éphéméride et de l'histoire, histoire du 17 janvier en science et en technique, il y a pas mal de choses. En 1524, le navigateur et l'explorateur italien Giovanni da Verrazzano part à la recherche de la Chine par le nord-ouest. Il dispose de la caravelle La Dauphine, équipée de 50 hommes et chargée de vivres pour 8 mois. 1524. Le 17 janvier 1773, James Cook et son équipage sont les premiers Européens, voire peut-être même les premiers êtres humains connus à franchir le cercle polaire antarctique en 1773. 17 janvier 1861, c'est un brevet pour des toilettes à chasse d'eau qui a été déposé. Ça date de 1861, les toilettes à chasse d'eau quand même. C'est Thomas Crapper qui a déposé ce brevet. Plus proche de nous, au XXe siècle, en 1949, les docteurs de l'Institut Pasteur, Muller et Lépine, identifient le virus de la grippe. Virus de la grippe, en 1749, il a été identifié. La grippe a été assez virulente cette année, une épidémie assez violente. Enfin, le 17 janvier 2000, à New York, un aveugle recouvre une partie de la vue grâce à une caméra miniaturisée qui est reliée à son cerveau par des électrodes. C'était le 17 janvier 2000, c'est assez fascinant bien sûr. Naissance le 17 janvier 1706 de Benjamin Franklin. Imprimeur, éditeur, écrivain, naturaliste, humaniste, inventeur, abolitionniste, homme politique américain. Il a vraiment eu tous les profils, Benjamin Franklin, à côté de ses activités d'imprimeur, d'homme politique et de diplomate. Benjamin Franklin conduit, après 1750, un grand nombre d'activités scientifiques dont les résultats participent de sa renommée en Europe. Il est particulièrement, bien sûr, célèbre pour ses travaux dans le domaine de l'électricité, notamment ses expériences sur l'électricité dans les nuages et son explication de la foudre. En 1750, il rédige le protocole d'une expérience célèbre avec un cerf-volant. Afin de prouver à ses contradicteurs de la Royal Society que les éclairs étaient de simples décharges de nature électrique, il propose de faire voler un cerf-volant dans le passage de nuages un peu orageux. Et la corde du cerf-volant, une fois humidifiée, sera mise à distance d'une clé métallique. Ainsi, ça devrait pouvoir libérer des étincelles. Alors, pour éviter les moqueries et pour limiter le danger, il décide de conduire l'expérience en privé. Alors, elle présente bien sûr des risques évidents d'être une expérience totalement fatale aux deux expérimentateurs, notamment son fils William, qui tient le cerf-volant pendant que le père Benjamin surveille le ciel traversé de lambeaux de nuages orageux et il approche la clé. La conduite d'un cerf-volant peut être mortelle en cas d'éclair. Ça a été le cas notamment à cette époque-là de George Wilhelm Richman. C'est un physicien russe. Il est resté célèbre en raison des circonstances de sa mort un jour d'orage. Il a eu connaissance un peu des expériences de Benjamin Franklin sur le paratonnerre. Il s'était muni d'un appareil métallique, un électromètre, et puis s'était placé à proximité de la barre métallique du paratonnerre. Il est mort foudroyé totalement. Donc c'était quand même assez dangereux, bien évidemment, à l'époque. Les recherches de Benjamin Franklin suscitent pourtant un grand intérêt en Europe. Et des expériences similaires sont menées en France. France, notamment par le français Thomas-François Dalibard. Donc voilà, naissance le 17 janvier 1706 de Benjamin Franklin. Alors nous, ici à Graphite, on a une affinité particulière avec ce personnage Benjamin Franklin parce que les locaux du studio de Graphite se trouvent dans le bâtiment qui s'appelle le bâtiment Benjamin Franklin, l'Université Technologique de Compiègne. Donc Benjamin Franklin, voilà, est un nom qui a beaucoup marqué cette Université de Technologie parce que son parcours était véritablement intéressant. On n'aura pas le temps de parler de tout ce qu'il a pu faire, notamment d'un point de vue politique. Mais voilà, il a été vraiment un personnage très très important, Benjamin Franklin. Décès le 17 janvier 2005 d'Albert Schatz, découvreur de la streptomycine, qui est le premier antibiotique utilisé dans le traitement de la tuberculose et de nombreuses autres maladies. La découverte de la streptomycine est cependant seulement accordée à son superviseur, Selman Waksman, parce que c'est lui qui obtient le prix Nobel de médecine en 1952, et pas le vrai découvreur qui est Albert Schatz, qui est donc décédé le 17 janvier 2005, découvreur de la streptomycine. Voilà pour cet éphéméride. Alors, la semaine dernière, il y avait deux informations qui étaient assez intéressantes que je voulais évoquer avec vous. On va commencer quand même pour recommencer d'un côté un peu positif avec cet article de Futura Science qui revient sur un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui a notamment eu lieu en octobre 2025, avec des recherches qui ont été menées conjointement par des institutions canadiennes et chinoises et qui représentent un peu l'aboutissement d'une décennies d'efforts. L'objectif, c'était de résoudre l'un des défis majeurs de la transplantation rénale en permettant la greffe d'organes indépendamment de la compatibilité sanguine entre le donneur et le receveur. Cette avancée, elle pourrait réduire les délais d'attente et sauver des milliers de vies chaque année. Les groupes sanguins, en fait, on sait qu'ils se définissent par la présence d'antigènes qui sont spécifiques à la surface des globules rouges. Ce sont des marqueurs moléculaires qui sont composés en fait de chaînes de sucre. Et ça va déterminer si un organe sera accepté ou rejeté par le système immunitaire du receveur. Alors actuellement, plus de la moitié des patients qui nécessitent une greffe de rein possèdent un groupe sanguin O. Et paradoxalement, cette situation, elle crée une espèce de pénurie un peu dramatique parce que les reins de type O, naturellement donc dépourvus de ces antigènes problématiques, peuvent théoriquement convenir à n'importe quel receveur. Ils sont donc sollicités pour tous les groupes sanguins, ce qui crée une demande qui est bien sûr supérieure à l'offre disponible. Il y a des procédures qui existent pour essayer de transplanter des organes incompatibles, mais elles présentent plusieurs limitations majeures. Elle nécessite notamment une préparation vraiment lourde et aussi coûteuse du receveur. Elle demande bien sûr la présence en grand nombre de donneurs vivants. Elle comporte des risques significatifs pour les patients bien évidemment et leur accessibilité, elle demeure limitée dans les faits cliniques. Alors cette équipe de chercheurs dirigée par le biochimiste Stephen Weavers de l'Université de Colombie-Britannique a développé une approche radicalement différente et c'est ça qui est intéressant. Cette méthode, elle repose sur l'utilisation d'enzymes spécifiques qui vont être capables d'éliminer les antigènes qui sont présents à la surface des cellules du rein. Le processus ressemble à un travail de précision moléculaire parce que ces enzymes vont un peu agir comme des ciseaux un peu microscopiques qui vont couper les chaînes de sucre qui sont caractéristiques du groupe sanguin 1, par exemple. Et une fois qu'on a donc coupé ces marqueurs, eh bien, l'organe il a les propriétés du groupe O, et c'est quand même beaucoup plus simple pour une transplantation rénale. Donc, Stephen Weavers compare cette opération, par exemple, il dit au retrait de la peinture d'une voiture pour révéler l'après neutre sous-jacent, c'est-à-dire qu'on enlève la couche supérieure, mais il y a toujours la carrosserie qui existe. C'est un petit peu l'image qu'il donne pour expliquer la technologie qu'il met en place. Et donc, une fois modifié, l'organe devient invisible aux défenses immunitaires parce que si elle le repère, eh bien on est sur un phénomène de rejet. Là, comme elle ne le repère pas parce qu'il devient neutre, entre guillemets, on peut se dire que le phénomène de rejet sera fortement diminué. L'expérimentation a été réalisée sur un receveur en état de mort cérébrale dont la famille a consenti à participer à cette recherche, nous dit-on. L'organe transformé a survécu et a fonctionné pendant plusieurs jours, ce qui démontre la viabilité du concept dans un modèle humain. Alors, c'est un caractère vraiment prometteur de cette découverte, hein, de cette avancée scientifique qui nécessite encore, bien sûr, des perfectionnements. Au troisième jour suivant la greffe, il y a eu des signes de réapparition des antigènes de type A qui ont été détectés, ce qui provoque cette fois une réponse immunitaire du receveur. Toutefois, cette réaction s'est révélée moins intense qu'anticipée. Le corps du patient, il montrait même des espèces de comme une tolérance, on va dire, un peu progressif, une tolérance de ce nouvel organe qui avait été greffé. En fait, ça suggérerait, par exemple, que le système immunitaire pourrait tenter de s'adapter à sa présence. Et donc là, ça serait quand même totalement révolutionnaire. Aux États-Unis uniquement, il y a environ 11 personnes qui décèdent tous les jours dans l'attente d'une transplantation rénale. C'est quand même un chiffre énorme. La majorité espère recevoir un rein de groupe O. Et donc face à cette urgence sanitaire, les scientifiques visitent simultanément plusieurs pistes qui vont inclure la xénogreffe. Alors la xénogreffe, on en a déjà parlé, c'est la greffe avec des organes animaux, notamment le porc. On avait parlé de ça il n'y a pas très longtemps, il me semble, il y a quelques mois. Et on peut aussi voir les pistes de recherche qui concernent le développement d'anticorps totalement innovants. Bref, Stephen Weavers, lui, souligne que cette découverte, dont les travaux ont été publiés dans la revue Nature Biomedical Engineering, eh bien, ça illustre parfaitement comment des années de recherche fondamentale trouvent finalement leur application dans les soins aux patients. Alors, l'équipe poursuit bien sûr ses travaux pour optimiser la durabilité de la conversion enzymatique et aussi préparer un petit peu les futures phases d'essais cliniques qui vont être nécessaires sur des receveurs vivants cette fois, avec donc l'espoir de transformer radicalement l'accès aux greffe rénale. Donc c'est une véritable découverte révolutionnaire, c'est vraiment quelque chose de très très prometteur et de très important, ce qu'on peut appeler une espèce de rein universel qui pourrait mettre fin aux listes d'attente interminables concernant les greffes d'organes et notamment les greffes de reins. Donc voilà, c'était une information. Alors, ça a été annoncé à la fin de l'année dernière, mais je trouvais important d'évoquer ce sujet assez rapidement dans cette émission parce que, voilà, ça c'est la science, ça prouve très bien toutes les années qu'il y a de recherche pour aboutir à ce résultats, mais là, on est maintenant sur des premiers résultats qui sont assez prometteurs. Alors certes, ça doit se poursuivre, bien évidemment, mais c'est totalement, on est vraiment sur une perspective assez optimiste, et c'est tant mieux. Voilà, on va parler de Sophie Adenau, juste après un petit titre, on va écouter un petit peu de musique, parce que Biotine, c'est ça, c'est de la science et c'est de la musique. Vous êtes bien sur Graphite, à tout de suite.
To the dogs, and I know that I can't be fell. So bleed, stroke.
Deeping Out, c'était Gurious sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Allez, on va parler dans l'espace, on va partir dans l'espace avec ces trois articles. Il y en a même quatre, hein, d'ailleurs. Là, il n'y a que de l'espace dans cette émission, c'est pas possible. Déjà, on va quand même parler de Sophie Adenau parce que ça va être son actualité en 2026. Parce que voir un Français, une Française partir dans l'espace, c'est pas si fréquent. Sophie Adenau, 43 ans, sera la prochaine à prendre part à un voyage vers la Station Spatiale Internationale. Et ce séjour arrive très vite puisque son départ est prévu pour le 15 février prochain. Lors d'une conférence de presse, la dernière avant son départ au centre de formation de l'ESA, l'ESA c'est l'Agence Spatiale Européenne, c'est à Cologne en Allemagne, eh bien elle s'est confiée sur sa mission à venir et elle s'est dite impatiente mais aussi sereine, concentrée et curieuse. Il faut dire que Sophie Adenau a déjà battu un record, celle qui sera la seconde française dans l'espace après Claudie Aigneré. Elle a bouclé sa formation en seulement 2 ans et 9 mois, ce qui est le délai le plus court jamais observé. Une fois dans la Station Spatiale Internationale, elle y restera 8 mois pour sa mission Epsilon qui s'annonce particulièrement chargée parce que durant son séjour, elle va participer à environ 200 expériences, dont une dizaine d'expériences françaises qui seront suivies par le CNES. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Alors, parmi ces expériences, il y a un dispositif à tester qui consiste à réaliser des échographies en autonomie, sans guidage, depuis la Terre. Un autre destiné aux échographies osseuses, mais aussi un outil qui va être testé pour réaliser un suivi médical complet des astronautes. Alors, c'est des systèmes qui sont destinés plus tard à une utilisation sur Terre, bien sûr, mais notamment dans des zones où il est compliqué d'accéder pour un médecin ou un cabinet médical avec suffisamment de matériel pour réaliser ces examens. Donc, c'est vraiment des expériences qui vont être très utiles. Sophie Adenau aura aussi pour responsabilité de gérer les dispositifs liés au nettoyage, notamment pour analyser les biocontaminants présents un peu partout à bord de la station, tester également des pièges capables de les recueillir efficacement, ce qui est crucial bien sûr pour maintenir la propreté à bord de la station, parce que par définition elle n'est pas aérée cette station, et il y a une accumulation de nombreux microbes depuis des décennies, donc il va falloir essayer de nettoyer ça et de trouver une solution pour bien nettoyer. À tout cela s'ajoute aussi toute une série de missions un petit peu routinières entre guillemets, qui consistent à participer aux expériences scientifiques des autres occupants de la station spatiale, mais aussi des opérations de robotique, voire même une sortie extravéhiculaire pour l'entretien de l'extérieur de la station spatiale internationale. À noter aussi une expérience un peu plus ludique qui s'appelle Chlor-ISS. Elle consiste à faire germer des graines à la fois dans l'espace et dans plusieurs classes scolaires sur Terre, des classes qui vont du primaire jusqu'au lycée. Et l'idée, c'est un petit peu d'observer les effets de la gravité ou de l'absence de gravité sur la croissance. L'objectif de cette expérience, elle n'est pas uniquement scientifique, elle est aussi pédagogique. Le but, c'est un petit peu de s'adresser aux plus jeunes pour transmettre un goût pour la science. On est dans l'idée de pouvoir susciter des vocations, bien sûr, ce qui est assez important. Donc là, on est sur une expérimentation qui peut être simple, qui peut être compréhensible, mais qui peut susciter une petite curiosité et donc peut-être une petite envie de s'impliquer un petit peu plus dans les formations scientifiques. Et puis, Sophie Adenau, elle affirme vouloir surtout s'adresser aux filles. Et elle a déclaré durant la conférence, je cite, « Les femmes représentent 50% de la population, à pas de raison que l'on ne soit pas astronaute. » Et elle a bien raison, bien sûr. Donc, elle va partir lors du vol SpaceX à bord d'une capsule Crew Dragon, avec à bord une autre femme qui sera la commandante de la mission, qui sera l'américaine Jessica Meir, et aussi le pilote américain Jack Hathaway, et le spécialiste de mission qui est russe, Andrei Fediaev. Donc une Française, 2 Américains et un Russe qui vont partir à la direction de la Station Spatiale Internationale le 15 février prochain. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce voyage prochainement dans une future émission de Biotine, bien évidemment. Pendant ce temps-là, il y a Elon Musk qui fait beaucoup parler de lui. Alors il y a deux articles que je voulais évoquer, deux articles que j'avais trouvés sur Futura Science. mais qui parlait d'Elon Musk d'un point de vue spatial. Alors le premier, ça a été évoqué un petit peu pendant les vacances, pendant la période des fêtes de fin d'année, j'ai vu ça sur plusieurs médias. C'était l'idée de pouvoir éviter la catastrophe des collisions dans l'espace. Alors précisément, le 17 décembre dernier, il y a l'un des 9300 satellites de Starlink qui a rencontré une anomalie, il a coupé sa liaison terrestre, et lors de cet événement, cet engin a généré un petit nombre de débris qui sont désormais en fait autant de dangers parce qu'ils évoluent en orbite à 27 000 km/h. Donc même si c'est des tout petits débris, c'est très très dangereux parce que ce sont autant de fragments qui risquent de perforer d'autres satellites sur des trajectoires différentes avec une vitesse d'impact deux fois plus élevée. Après cet incident, SpaceX a donc décidé de réduire l'altitude d'environ 4400 satellites, les faisant passer d'une orbite moyenne de 550 km à 480 km au-dessus de la Terre. L'objectif, c'est bien sûr d'améliorer la sécurité orbitale dans une région de plus en plus congestionnée par des satellites et des débris spatiaux. Il faut dire que les deux tiers des satellites présents constituent la méga constellation Starlink. Alors, même si la majorité des fragments ne frappe rien, une collision majeure pourrait détruire un à deux satellites avec une dispersion de leurs débris sur plusieurs plans orbitaux. Et donc la probabilité de collision secondaire, elle pourrait alors augmenter jusqu'à 5 fois en quelques années. C'est-à-dire qu'on peut être sur un effet boule de neige, entre guillemets. On est encore loin, bien sûr, du syndrome de Kessler, mais chaque collision augmenterait considérablement la probabilité des suivantes. Et donc en abaissant l'altitude, en plus de réduire donc ce risque, avec l'atmosphère terrestre légèrement plus dense, eh bien les engins, les débris qui sont positionnés plus bas vont retomber plus rapidement dans l'atmosphère pour se désintégrer. Alors Starlink estime que cette mesure permettra de réduire de plus de 80% le temps nécessaire à la réentrée naturelle d'un satellite défectueux. Ça va limiter ainsi la durée pendant laquelle il pourrait devenir un débris dangereux. Au niveau de la liaison vers le sol, ce changement d'altitude, devrait pas nécessairement changer grand-chose, pourrait même bien réduire la latence également, donc ça peut être assez intéressant. En revanche, cette orbite plus basse devrait réduire la durée de vie de chaque satellite en raison d'une atmosphère plus dense et donc il y a plus de contraintes, de frottements qui vont avoir lieu, donc ça va un petit peu plus se détériorer. Le trafic de renouvellement devrait donc être augmenté parce que voilà, on a du matériel qui sera moins pérenne, moins durable, donc il y aurait un renouvellement un peu plus fréquent. Mais c'est sans doute arrangeant pour l'opérateur qui pourra ainsi augmenter la cadence de mise en orbite de satellites de nouvelle génération, plus performants bien évidemment. Alors, dans les altitudes actuelles des Starlink, il y a déjà des centaines de milliers de fragments de débris allant de la peinture microscopique à des grands étages de fusée, on y trouve de tout. Ces débris circulent à plusieurs kilomètres par seconde, ce qui est donc une vitesse très très importante. Les plus dangereux sont surveillés en temps réel et des corrections de cap sont appliquées aux satellites s'ils s'en rapprochent dangereusement. Ces débris proviennent de sources multiples. Soit c'est des anciens satellites qui sont hors service, soit c'est des étages de lanceurs qui ont été abandonnés, soit ce sont des fragments qui résultent de collisions antérieures. Même les essais d'armes anti-satellites menés par des pays comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, on pourrait retrouver tout ça, en fait c'est une vraie poubelle en clair. Le problème c'est que sur le plan réglementaire, l'espace reste une sorte d'un petit peu de Far West des temps modernes. Alors il y a quelques accords cadres qui sont pas trop contraignants sur la désorbitation en fin de vie, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on enlève de l'orbite les matériaux, les notamment les satellites qui ne seraient plus opérationnels. Bon, ça a un coût, donc on préfère les laisser sur place, en clair. Et ça peut être aussi y avoir quelques accords sur la coordination des trajectoires. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'existe pas de loi internationale pour limiter les débris spatiaux. Mais face à la prolifération des satellites, il y a certaines voies scientifiques et politiques qui appellent à des normes plus strictes sur la prévention des débris, la surveillance partagée et sur des mécanismes de responsabilité en cas de collision. Mais comme l'espace ne repose pas sur une juridiction souveraine claire, alors il faudra encore compter longtemps sur le bon vouloir d'opérateurs comme Starlink pour sécuriser les orbites. Donc voilà, c'est un sujet qu'on évoque depuis plusieurs années. Pour l'instant, rien n'est fait en fait encore, mais on en met encore beaucoup plus. C'est assez problématique et donc voilà, SpaceX a voulu essayer, Elon Musk s'est dit tiens, on va essayer un petit peu de baisser un petit peu les orbites et donc un petit peu faire baisser, redescendre certains satellites, mais quelque part, ça ne solutionne pas le problème. Mais donc voilà. Donc ça, c'était la partie numéro 1 concernant SpaceX. L'autre article va plutôt s'intéresser à 2026 parce que Elon Musk a fait une annonce disant que Starship part pour Mars fin 2026. Donc cette année, c'est-à-dire que pour lui, en décembre, Starship va partir pour Mars. C'est une annonce donc signée Elon Musk qui promettait un voyage vers Mars à bord de son lanceur réutilisable, le fameux Starship, il y a moins d'un an. Alors déjà à l'époque, les déclarations du milliardaire ont fait soupirer un bon nombre de spécialistes du secteur parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas grand-chose de concret. Mais aujourd'hui, après plusieurs mois d'essais infructueux de cette fusée géante, le Starship, eh bien l'objectif apparaît toujours aussi réalisable. On n'est pas certain que 2026 sera l'année où on pourra aller sur Mars. Et depuis cette promesse, le Starship, il a connu un crash retentissant en mai dernier, on en avait parlé dans cette émission, avec notamment une désintégration pendant la rentrée atmosphérique. Et il y a quand même eu deux succès en août et en octobre avec un amerrissage contrôlé. Mais pour 2026, changement de programme. Le premier vol d'essai de cette version plus puissante est attendu bientôt, en premier trimestre 2026. Et pour cela, il devait utiliser un booster. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a eu des essais qui ont été faits à la fin de l'année dernière et ce booster 18, qui devait servir justement à équiper cette nouvelle génération, a explosé de manière spectaculaire lors d'un simple essai en vol. Il a donc fallu construire un nouveau booster en toute hâte assez rapidement pour espérer faire voler ce fameux Starship sans trop prendre de retard sur le programme. Depuis, eh bien, l'entreprise SpaceX a communiqué sur les avancées de son programme et a pu largement accélérer la cadence pour assurer un 12e vol de son lanceur géant ce début d'année. Mais alors après, on n'en sait rien. Le calendrier prévisionnel de SpaceX prévoit au moins 8 lancements cette année. Et encore pas mal de cases à cocher, bien évidemment. Parmi les défis, celui de réaliser un vol orbital de la nouvelle version en récupérant l'étage supérieur. Alors, il y a aussi le fait, il y a une autre mission qu'il faut qu'il fasse, c'est d'essayer de faire une opération de transfert de carburant pendant le vol, ce qui implique le premier lancement d'une cible à placer en orbite, puis quelques semaines plus tard, un autre vaisseau qu'on va envoyer, qui va être destiné à rejoindre le premier et donc à faire un réapprovisionnement un transfert notamment de carburant. Donc ça, il va falloir qu'il teste ça cette année. Est-ce qu'il va pouvoir y arriver? On n'en sait rien. Et si tout cela peut sembler atteignable pour l'entreprise, parce qu'évidemment, ne vont jamais dire qu'ils ne vont pas y arriver. Le moindre retard sera bien sûr sévèrement sanctionné puisque la mise en pratique doit arriver très bientôt. Alors pour la mission Artemis 3, le Starship doit être mobilisé pour installer un dépôt de carburant, puis pratiquer une espèce de rendez-vous en orbite afin de préparer l'atterrisseur et ainsi permettre à des astronautes de se poser sur la Lune. En parallèle, SpaceX compte multiplier les sites de lancement un peu partout à travers les États-Unis et en avoir au moins 3 d'ici à la fin de cette année, ce qui semble assez ambitieux pour un lanceur qui n'a pas encore fait ses preuves. Bref, si l'objectif martien est déjà amené à être repoussé à des échéances bien plus lointaines, eh bien le gouvernement américain ne compte pas faire de même avec l'exploration pour la Lune, parce que la Lune, c'est encore aussi une autre actualité, étant donné que la Chine, elle est lancée dans la course et elle compte faire arriver ses astronautes dès 2030. 2030, c'est demain. Eh bien actuellement, la mission américaine est programmée pour 2028, bien sûr, ça va être plus tôt. C'est une véritable course qui est lancée actuellement. Il a même été envisagé de se passer de SpaceX pour tenir les délais s'il y a d'autres entreprises qui peuvent prendre le relais, bien évidemment. Donc, l'entreprise SpaceX a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était capable d'aller vite et de réaliser d'importants progrès concernant son Starship. Mais Elon Musk nous a aussi habitués à des déclarations toujours très optimiste, voire complètement impossible à tenir dans les délais. Alors si celle d'un Starship partant vers Mars avant la fin de cette année n'est pas tenue, il sera temps de faire un nouveau bilan pour voir si le lanceur géant s'apprête ou non à devenir enfin une réalité. Donc on le saura assez rapidement. Voilà, il promet un voyage vers Mars cette année, Elon Musk, mais est-ce que son Starship est vraiment prêt? C'est toute la question, et donc on va suivre un petit peu cette actualité tout au long de cette année, parce que les essais, alors bien sûr, ils vont communiquer pour montrer les réussites ou les échecs éventuels, et voir un petit peu comment ils peuvent retrouver d'autres solutions pour essayer de résoudre ces échecs. Donc ça va être totalement passionné, c'est une course, une véritable course spatiale qui se met en place et à laquelle nous assistons, et donc on sera quasiment aux premières loges, je vous le promets. Voilà, on écoute un deuxième titre sur l'antenne de Graphite, et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va rester dans l'espace et on va continuer à parler notamment de la NASA, parce que c'est un petit répit pour l'instant pour la NASA. C'est ce qu'on verra juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Walk with me into this night. Keep me close, hold me tight. Is this the dark before the dawn? Or just the low before the storm? The world is sleeping, a world on the brink. The future is closer than we think. The machines are here to correct our faults, assist our living, think our thoughts. No more hiding in the privacy of our minds now. Even dreams are monitored and monetized, but we're conforming to this new reality. Descend us into insanity. What of the memories that permeate our minds, the experiences that money cannot buy, the rainbows that shimmer in oil-stained puddles like remembrances of former lives? But with the passing of cars, like the passing of time, they will discolor and collide. The fireplace glow, the coal tar soap, the Sunday roast, the tobacco smoke, the jamboree bags, the penny chews, all now disappearing from view. My nan's perfume, its name I can't remember. The autumnal lights of October and November. Just the molecules that animate our flesh. We are eternal beings, sempiternally blessed. Free as the day we die, pure as we are born. Our souls remain deathless, no need to mourn. Our lives will teem with love and regret. I hope you remember the things I can't forget. I hope you remember the things I can't forget. C'était The sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et nous continuons à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission Biotine que vous écoutez sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, avec la rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h bien sûr. On est encore dans l'espace parce qu'il y avait, on l'avait évoqué, je crois que ça avait été en décembre dernier, la situation un peu compliquée au niveau de la NASA. Et finalement, le budget de la NASA pour l'année 2026 a été approuvé par les élus américains, 24 milliards 438 millions de dollars. C'est une diminution d'environ 400 millions par rapport à l'année précédente. Mais quand même, ça, on pousse un ouf de soulagement du côté de l'agence spatiale américaine, parce que Donald Trump voulait un petit peu amputer tout cela de 6 milliards sur son budget annuel, tout particulièrement dans les domaines scientifiques, ce qui aurait remis en cause l'existence de plusieurs dizaines de missions. Mais finalement, les demandes et les menaces du président américain n'ont pas abouti et le Congrès américain a tenu bon en rejetant la quasi-totalité des propositions qui avaient été émises par la Maison Blanche. Ainsi, le département scientifique de la NASA obtient 7 milliards 250 millions d'euros, une petite baisse, mais légère petite baisse par rapport à l'année dernière. Les opérations spatiales, qui incluent notamment la Station Spatiale Internationale, elles ont aussi une petite baisse, mais finalement, c'est sentir bien, en clair. Au final, le plus grand perdant, c'est le département des technologies spatiales qui perd plus d'1 milliard de dollars, mais conserve tout de même un budget de 920 millions de dollars, alors que le président américain avait proposé 3 fois moins. Contrairement à ce que craignaient la plupart des observateurs, mais aussi une bonne partie du personnel de la NASA, eh bien le budget 2026 n'aura donc pas de conséquences majeures sur les observations de la Terre ou les différents projets astrophysiques. En revanche, il s'agit de faire une croix sur une mission emblématique de l'agence spatiale, c'est la mission Mars Sample Return. Le projet en fait de faire revenir sur Terre les échantillons martiens qui ont déjà été récupérés et qui ont été mis de côté par le rover Perseverance. Eh bien, ce projet est annulé, en tout cas dans sa forme actuelle. L'architecture prévue étant jugée trop complexe et trop coûteuse, le programme n'existe donc plus. Il faut dire que les coûts étaient estimés aux alentours de 10 milliards de dollars pour mener à bien cette mission telle qu'elle était prévue au départ. Alors, ça a été jugé bien trop ambitieux en l'état actuel de nos connaissances, surtout sans savoir quand les échantillons seraient bien ramenés sur Terre. Donc ce projet de ramener les échantillons martiens sur Terre, pour l'instant, c'est abandonné. C'est vrai que 10 milliards de dollars, quand même, c'est assez important, bien évidemment, mais bon, voilà, ce projet est abandonné. En tout cas, voilà, la NASA, elle est sauvée par le Congrès, mais elle est contrainte donc de renoncer à un rêve martien. Donc voilà, la NASA s'en sort quasiment indemne. Il y a quelques ajustements qui sont de mise, mais finalement, ça s'est un peu calmé, on va dire. On en avait parlé dans cette émission, je crois que ça devait être en décembre, où c'était quand même assez... Ils étaient un petit peu pessimistes sur leur avenir. Bon, là, c'est un petit peu un vrai répit. Voilà, on ferme provisoirement la page de l'espace et on va parler de l'intelligence artificielle. Et c'est assez intéressant, cet article de Futura Science qui nous explique qu'en 2026, eh bien, l'intelligence artificielle générative passe à la vitesse supérieure parce que cette année, 60% des entreprises au niveau mondial disposeront de plateformes internes d'intelligence artificielle générative. 60% cette année contre 18% il y a 2 ans. Donc on voit très bien qu'on est sur une phase exponentielle assez importante. C'est l'étude Futurescape qui a été réalisée par le cabinet International Data Corporation qui nous donne donc ces chiffres et c'est assez intéressant parce que ça nous donne un petit peu un état des lieux actuel du déploiement de l'intelligence artificielle générative. Le rapport Jane Hahey qui date de cette année établi par un autre cabinet Gartner indique quant à lui que plus de 80% des grands groupes auront intégré des API ou des applications d'intelligence générative en production. 80% contre moins de 5% en 2023. Donc on voit très bien que là, on passe de presque rien à presque tout. Nous sommes vraiment en train de vivre un basculement, nous explique cet article de Futura Science. Progressivement, cette technologie est devenue un levier de productivité et d'efficacité indispensables pour les entreprises comme pour les particuliers. Alors en 2026, la course à la taille des modèles jusqu'ici dominés par les géants américains va laisser place à des solutions compactes et spécialisées pensées pour être adaptées à un métier. C'est ça qui est intéressant. L'intelligence artificielle générative, elle opère désormais comme une espèce de couche cognitive transversale qui va s'insérer dans les ERP, dans les outils bureautiques, dans les plateformes industrielles, dans les suites créatives. Ça va équiper chaque fonction métier, la finance, le marketing, les ressources humaines, la recherche et le développement. Ça va les équiper d'un espèce de copilote un petit peu génératif qui prendra en charge un nombre toujours plus important de tâches, par exemple la préparation de rapports réglementaires jusqu'à la génération de contenu multimédia pour la communication ou la formation. Dans le secteur de la santé, les projets d'usines d'intelligence artificielle qui vont combiner des supercalculateurs, des modèles génératifs biomédicaux, l'exploitation des données internes, tout ça, ça préfigure un nouveau standard de découverte et d'optimisation des molécules. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va révolutionner aussi le monde médical et biomédical, avec des cycles d'essais virtuels bien plus rapides que les protocoles traditionnels. Oui, évidemment, ce qui va pouvoir être fait par l'intelligence artificielle, l'un des grands atouts, on va dire, c'est le gain de temps, bien sûr. Et donc, du coup, en termes de recherche scientifique, ça peut être assez intéressant. Dans l'industrie manufacturière aussi, qui est concernée, il y a des acteurs de premier plan comme Renault, Michelin, Safran, qui couplent déjà l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, les robots collaboratifs, pour essayer de simuler et d'automatiser la grande majorité des opérations d'usinage, réduire les défauts de production, orchestrer des scénarios de maintenance augmentée. Donc là aussi, ça bouge beaucoup dans l'industrie manufacturière. Au niveau de l'énergie, l'intelligence artificielle générative permet de lisser les pics de production des énergies renouvelables intermittentes. L'idée, c'est de faire coïncider l'offre et la demande. Ça, c'est toute la problématique en termes d'énergie. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'électricité à un moment où on n'est peut-être pas nécessairement capable de la produire. Ou inversement, on produit de l'électricité à un moment où on n'est pas nécessairement obligé d'en avoir. On a problème de stockage de l'énergie. Donc, quelque part, on produit parfois de l'électricité à perte. Prenons un exemple très simple pour comprendre. Vous avez un plein soleil, donc les panneaux solaires peuvent produire de l'électricité. Si vous n'en avez pas besoin à ce moment-là, c'est un petit peu dommage parce que la production, elle est un petit peu déséquilibrée. Inversement, vous avez besoin en période de grand froid de vous chauffer, donc vous avez besoin de brancher un petit peu tous vos radiateurs électriques. Donc vous avez un besoin soudain d'électricité. Sauf qu'en général, ça se fait la nuit, donc les panneaux solaires, ben là, c'est un petit peu compliqué pour produire l'électricité. Donc évidemment, il y a d'autres énergies qui arrivent à la rescousse, mais voilà, on est sur une problématique d'équilibre. Là, l'intelligence artificielle va pouvoir essayer, non pas peut-être d'anticiper, mais en tout cas d'avoir une vision un petit peu plus fine des prévisions, parce que tout est un exercice de prévision. On essaye de prévoir la demande pour pouvoir prévoir l'offre adéquate. Et donc là, dans le secteur de l'énergie, l'intelligence générative va permettre de pouvoir essayer de combiner cela d'une façon un petit peu plus efficace. La génération automatique s'impose également dans les secteurs du commerce, du transport, de la banque et de l'éducation. Bref, à partir de cette année, l'entrée en vigueur de l'intégralité des mesures de l'intelligence artificielle Act en Europe, dont la première version date d'il y a 2 ans, ça va imposer à toutes les entreprises la transparence totale sur les sources de données, pouvoir essayer de détecter les contenus qui sont générés, la documentation des risques avec des sanctions qui pourront atteindre plusieurs millions d'euros. Et donc, loin de freiner le passage à l'échelle, ce cadre réglementaire qui a été mis en place en Europe va pousser les grands groupes à internaliser la gouvernance de l'intelligence artificielle générative et à privilégier des modèles de domaine compacts et spécialisés. C'est un passage obligé pour garder la main sur les enjeux de propriétés intellectuelles et de souveraineté des données. En fait, ça veut dire que la conformité va devenir un avantage concurrentiel pour les acteurs européens, car ils seront en mesure de certifier les offres proposées à leurs clients, ce qui va pousser justement les entreprises étrangères qui ont accumulé du retard à essayer de les rattraper et à s'aligner sur ces nouveaux standards. Bref, 2026, eh bien la génération automatique va entamer une phase d'industrialisation massive, ce qui va faire naître une infrastructure cognitive mondiale dont le fonctionnement et les standards seront partagés par toutes les entreprises et bien sûr par l'écrasante majorité des particuliers. Donc l'intelligence artificielle générative passe à la vitesse supérieure. C'est vraiment en train de se faire en ce moment. C'est très important, bien sûr. Mais on va pouvoir suivre ça parce que c'est plus une curiosité technologique maintenant. Hein. C'est maintenant quelque chose qui se développe à une vitesse grand V, bien évidemment. Et je trouvais intéressant d'évoquer ça dans cette émission, bien sûr. Allez, on écoute un autre titre. Allez, sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Golden Eyes and Tears, c'était Eliane Fur sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Allez, les dernières minutes de cette émission avec... on va partir en Chine parce qu'au niveau technologique, la Chine bat des records en ce moment de plus en plus et elle joue un peu seule dans sa catégorie. L'une des dernières innovations remarquables repose sur la recherche sur l'hypergravité. En fait, c'est une centrifugeuse qui s'appelle Chief 1900 qui a été mise au point par le groupe Shanghai Electric Nuclear Power. Cette centrifugeuse va surpasser la précédente qui s'appelle Chief 1300 qui a été mise en service en septembre dernier seulement. Donc là, ils sont vraiment dans une phase aussi totalement exponentielle. Alors, question, à quoi va servir cette machine de plusieurs tonnes qui est en cours de finalisation après seulement 5 ans de construction ? Eh bien, à comprendre l'impact de forces gravitationnelles supérieures à celles de la Terre sur les matériaux et les structures, comme les cellules végétales et animales, par exemple. La seule façon connue d'y parvenir est d'utiliser une centrifugeuse géante capable de simuler les conditions de l'hypergravité. Eh bien, c'est avec cette centrifugeuse. Cette dernière se mesure en G, les mêmes que ceux qui sont endurés par les pilotes de chasse. Hein, on a déjà tous vu ça, mais cette fois sur des masses qui se comptent en tonnes. Hein. Ce n'est pas juste un bonhomme qu'on fait circuler dans la centrifugeuse. Là, on est vraiment sur d'autres choses parce que ça va pouvoir faire peser des forces colossales. Cette centrifugeuse simule une hypergravité. Alors, elle s'appelle cette centrifugeuse Chief 1900, tout simplement parce que c'est une hypergravité qui porte son chiffre, soit 1900 G-tonnes. C'est quelque chose d'énorme, on s'en rend même pas compte. C'est de loin la centrifugeuse la plus puissante au monde. Elle dépasse l'ancien record de la centrifugeuse du corps des ingénieurs de l'armée américaine dans le Mississippi. Elle plafonnait à 1200 G-tonnes. Là, on en est à 1900. Mais dans tous les cas, ces installations ne visent pas uniquement à comprendre les effets de l'hypergravité dans le cadre de voyages spatiaux humains. Elles servent surtout à compresser l'espace et le temps. C'est quand même assez fascinant. Tous les objets sur Terre sont soumis à la gravité et à la force centrifuge générée par la rotation de la planète. Et bien avec cet engin, l'idée c'est à peu près la même, mais en générant des forces des milliers de fois supérieures à celles de la gravité terrestre, avec une rotation ultra rapide. Le temps et l'espace sont donc comprimés. Et ça permet d'étudier des phénomènes qui s'étendent sur des décennies ou sur des kilomètres, en très peu de temps et en très peu d'espace. C'est totalement fascinant. Alors, à titre d'application, il y a celle qui permet d'estimer la circulation de polluants dans le sol et leurs effets après plusieurs millénaires. En tout, il y a 6 chambres d'essai qui sont disponibles. Cela va de l'ingénierie des pontes et des barrages en passant par la géotechnique sismique, l'ingénierie des grands fonds marins, l'environnement de la terre profonde également, pour finir également sur les processus géologiques et les traitements des matériaux. Donc on est sur des applications variées et totalement importantes. Il y a un peu plus d'un an, le bâtiment capable de l'accueillir n'existait même pas, donc ils vont quand même très très vite. Après avoir construit en quelques années une telle installation, tout ça, ça présente quand même un véritable challenge. Il faut pouvoir concevoir des éléments capables de supporter des mouvements à grande vitesse et des conditions de fonctionnement complexes. Et puis, il y a la chaleur considérable que cette centrifugeuse génère avec sa haute vitesse de rotation. Et donc, les composants, ils doivent pouvoir justement essayer d'encaisser, de supporter cela et puis pour les refroidir, l'équipe a mis au point un système de contrôle de température sous vide qui utilise un mélange de liquide de refroidissement et de ventilation justement pour essayer d'éviter toute surchauffe. Donc c'est vraiment un matériel véritablement important l'idée de pouvoir essayer de compresser l'espace et le temps, moi je trouve rien que cette phrase est assez fascinante. Ça se passe en Chine, au niveau de la Chine. En plus, ils ne communiquent pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques communications, bien évidemment, parce qu'on parle assez souvent de la Chine dans cette émission, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore totalement révélées. Et donc, il y a vraiment une avancée technologique. Enfin, la Chine, en ce moment, elle se montre de plus en plus. Elle est peut-être de moins en moins discrète, d'ailleurs. Mais du coup, ça, c'est technologiquement, c'est quand même totalement fascinant. Allez, il nous reste guère de temps, en fait. Juste finir avec des petites brèves que l'on peut trouver dans Science et Avenir, par exemple. Moi, je vous vous incite toujours à feuilleter des revues de vulgarisation scientifique, notamment Science et Avenir. C'est vraiment bien fait parce qu'il y a des articles de fond qui sont assez intéressants. Puis vous avez des petites brèves comme ça qui sont assez illustrées, qui sont totalement abordables. Par exemple, et c'est une petite brève dans la catégorie sciences fondamentales qui parle d'une nouvelle structure cristalline de l'eau, un nouveau type de glace d'eau qui a été créée en laboratoire par une équipe internationale de physiciens. Elle est cette glace très différente de celle que l'on trouve dans nos congélateurs. Elle se forme à une pression gigantesque de 2 milliards de pascals, donc on est vraiment sur une pression très très forte. C'est environ 20 000 fois la pression atmosphérique. Donc effectivement, on est sur des échelles assez importantes. Et en fait, cette glace, elle reste solide, donc elle reste en forme de glace, jusqu'à une température de 25 degrés. Donc nous, on est habitué à voir un glaçon qui fond à 25 degrés. Et bien là, cette glace, elle restera solide. Sa densité est par ailleurs une fois et demie plus importante que celle des cristaux de glace ordinaires. Et contrairement à la glace ordinaire, où les molécules s'agencent selon une géométrie un peu hexagonale, et bien le réseau de cette glace est de type tétragonal. Ça veut dire qu'on est sur une organisation cristalline assez nouvelle qui fait que on va pouvoir essayer de d'avoir des informations sur ce qui se passe sur des satellites de Jupiter et de Saturne, par exemple. Ça permet justement de pouvoir essayer de comprendre comment sur ces satellites naturels on a des espèces de couches de glace et comment ça s'agence, en fait. La glace, finalement, elle s'agence d'une façon différente. En tout cas, là, avec une super pression, on arrive à faire une glace qui reste solide à 25 degrés. C'est assez, c'est quelque chose qui nous perturbe, en fait, on va dire, parce qu'on perd un peu nos repères, quelque part. On pensait qu'à 0 degré, ça fond. Et bien là, non, on arrive à avoir de la glace d'eau qui reste solide à 25 degrés. Voilà, vous avez plein de petites brèves comme ça qui sont proposées dans Science et Avenir, et c'est vraiment bien fait. On parlait de Sophie Adnaud tout à l'heure dans cette émission. Elle se prépare donc pour une mission pour la Station Spatiale Internationale. Elle va tester notamment, nous dit-on, un prototype de combinaison spatiale intravéhiculaire qui a été développé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, par également Decathlon. C'est un nouvel équipement qui permettrait de protéger les astronautes en cas de dépressurisation lors de phases de décollage, d'amarrage et de retour sur Terre. Et donc, il y a un essai en apesanteur qui doit permettre de vérifier son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Donc voilà, cette combinaison spatiale co-signée Decathlon sera testée par Sophie Adnaud dans l'espace. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler prochainement. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve samedi prochain à 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et la rediffusion mardi matin à 10h. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt, au revoir.